Sache pourquoi Moïse n'est pas rentré en Eretz Israël. Parce qu'il a fait une faute. Laquelle? La faute, entre guillemets, qui a permis qu'Israël sorte d'Égypte. Alors cela l'empêche à lui d'entrer en Israël. Est-ce que c'est suffisamment clair? Vous voyez, il y a là une manifestation de la justice absolue qu'il faut comprendre au niveau où ces choses se réalisent. L'humanité entière sait qu'il y a une différence entre Israël et les nations. Et pourtant, tout se passe comme si, jusqu'à la fin des temps, on argumente comme s'il n'y avait aucune différence entre Israël et les nations. Mais l'humanité entière le sait. Tant dans la chrétienté que dans l'islam ou dans les autres courants de civilisation. Quoi qu'il en soit, Dieu seul sait en quoi consiste cette différence, mais nous suivons à travers ces récits historiques, dans le récit de la Bible, les différentes articulations de ce problème. J'espère avoir montré l'importance considérable de la personnalité de Moïse à ce sujet. Je vais un peu résumer cela, mais d'abord vous terminez ce midrash. Alors quand Moïse entend cela, « Tu as tué l'Égyptien », il répond, « Toi, tu les as tués tous ». Alors Dieu lui répond par un verset qui se trouve dans le Deutéronome. Il dit, oui, mais moi, je peux les ressusciter. Toi, tu ne peux pas les ressusciter. Alors là, nous avons deux traditions. Les Sfaradim disent que Moïse a dit « A » et son âme s'en est allée. Les Ashkenazim disent que Moïse a dit « O » et son âme s'en est allée. Mais c'est le même midrash, si vous avez compris. Et voilà donc quel est le problème. Quand le point de chute de cette analyse me paraît après tout important. Moïse comme homme politique, c'est de Moïse, homme politique de la sortie d'Égypte. Il ne peut pas être le Messie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là en chahutant un peu le vocabulaire. C'est Josué. Et Josué en hébreu, ça veut dire le sauveur, Yoshua. J'entre pas dans la sémantique christologique, mais enfin, vous voyez ce que signifie le nom de Josué. C'est Josué qui initie cette histoire qui commence à l'entrée dans le pays de Canaan, qui s'achève avec les temps messianiques, où Israël, comme société, sera au niveau du projet de Moïse, au niveau de ce projet du commencement pour lequel Moïse va être nécessaire pour révéler à Israël quel est son projet d'identité, de projet de vocation. Mais ensuite, Moïse doit s'effacer devant Josué parce qu'il est devenu trop haut pour le niveau du peuple qui recommence l'histoire à zéro, si j'ose dire. Je vais vous donner une analogie. Il faut effectivement que Moïse passe le relais de sa souveraineté politique à Josué, non pas parce qu'il n'est plus capable de diriger le peuple, mais parce que le peuple n'est plus capable d'être au niveau où Moïse se trouve. Moïse est trop haut pour s'occuper d'un peuple qui commence à peine son histoire. On retrouvera Moïse à la fin des temps, lorsque le peuple sera arrivé au niveau du Sinaï, après l'avoir mérité. Le niveau du Sinaï de Moïse, nous l'avons eu en cadeau, Matan Torah. À la fin des temps, on accédera au niveau du Sinaï, l'ayant mérité. Tout ceci est plein de références qu'il y a un peu partout. Mais c'est surtout le déroulement de l'idée principale que je vous ai formulée. Moïse est l'homme politique, le chef politique d'Israël pour la génération du désert. Et dès que la génération du désert s'achève, c'est Josué qui prend le relais. J'avais deux autres références importantes à analyser avec vous, mais enfin, ce sera peut-être le sujet de la conférence du premier trimestre de l'année qui vient. Bimeravi amen ou amen. Mais vous avez la parole, donc, si vous avez des questions. Oui, quelle heure est-il? J'ai aucune. 10h20, et on a commencé à 8h30. C'est déjà 10h20? Alors vous avez 5 minutes, pas plus. Ken, parlez fort parce que. Je n'entends pas. Lève-toi. J'essaie d'expliquer un niveau de lecture que Moïse a mis fin à la civilisation égyptienne. Je l'ai expliqué suffisamment. C'est pire que tuer un Égyptien. Bien sûr, c'est ça que ça veut dire. Il faut lire le texte hébreu. Vous comprenez, votre question m'induit un problème difficile. Il y a je vous dis, il y a des événements massifs de l'histoire du monde et on les considère sur des détails anecdotiques. Je donne un exemple. La persécution que les Juifs ont subie dans le monde chrétien pendant 2000 ans sur la calomnie du déicide. Et encore aujourd'hui, des Juifs qui sérieusement se demandent est-ce qu'on l'a tué ou pas ? Comme s'il s'agissait de l'histoire d'un individu qui aurait été tué ou pas, alors qu'il s'agit d'une histoire considérablement plus ample de ce que la chrétienté voulait dire en disant qu'Israël a tué Dieu. Ce qui n'a rien à voir avec une anecdote de crucifixion d'un juif, autant il y en a eu des milliers crucifiés par les Romains. Vous voyez, votre question se réfère un peu à ce niveau-là. J'ai pris quand même un quart d'heure pour essayer d'expliquer que ça n'a aucune importance de savoir comment s'appelait cet Égyptien. Qui était cet Égyptien ? D'ailleurs, la Bible en parle par la suite. Mais c'est un Égyptien qui aurait pu peut-être devenir hébreu, et puis voilà que c'est juste lui que Moïse a choisi pour... Bon, bref. Mais c'est un détail anecdotique qui n'a aucune importance. Ce que la Bible raconte, c'est tout à fait, dont elle parle, c'est tout à fait autre chose, que Moïse a mis fin à la civilisation égyptienne et l'a enfoui dans le sable. Et alors, vous posez la question de savoir est-ce qu'il a tué, est-ce qu'il n'a pas tué, mais il est mort, de toute façon. Écoutez, non, je voudrais être très clair. Il y a une espèce de décalage entre l'importance des récits sur lesquels vous greffez des questions anecdotiques. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien, c'est une des références que j'avais marquées. Et je vais vous en parler brièvement parce qu'on n'a pas le temps d'entrer trop dans le texte. Le texte semble apparemment dire que lorsque le deuxième épisode où le peuple a demandé de l'eau, il n'y avait pas d'eau, que Dieu demande à Moïse de prendre son bâton et de parler au rocher. Et que Moïse, au lieu de parler au rocher, a frappé le rocher. Et que c'est à cause de cela que Moïse et Aaron ne seraient pas rentrés en Eretz Israël. Et donc, votre question se rattache à l'analyse que nous avons eue tout à l'heure, en passant, pour quelle raison Moïse n'est pas du tout le chef d'Israël pour l'histoire d'Israël en Canaan, mais pour le désert. Eh bien, je vais vous citer un enseignement que j'ai reçu du professeur Baruch, il y a très très longtemps, à ce sujet. Et vous allez voir pourquoi c'est important que ce soit le professeur Baruch qui ait enseigné cela. Vous arrivez à entendre ? Oui, oui. Voilà, on cite Maïmonide dans les Shmona Prakim. Maïmonide enseigne que la colère est une des plus graves, le contraire de vertu, un des plus graves défauts. En particulier, il se base sur un enseignement du Talmud qui dit « Kores keilu oved avodah zara ». Celui qui se met en colère est comme s'il était idolâtre. C'est un enseignement qu'il faut étudier pour lui-même. Pourquoi cette comparaison-là plutôt qu'une autre ? Colère, se mettre en colère, c'est très grave, mais pourquoi dire « c'est comme s'il était idolâtre » de cette manière aussi précisément formulée ? Je parlerai très rapidement de cela. Qu'est-ce que ça veut dire être idolâtre ? C'est ne pas reconnaître qu'il y a un seul créateur. Or, si je me mets en colère contre quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas de limite à cette colère, ça va jusqu'à l'assassinat. La colère, c'est le commencement du meurtre. Et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire se mettre en colère contre quelqu'un d'autre ? C'est être dans le cas de le tuer. Et ça veut dire tout se passe comme si je ne reconnais pas que son créateur est le même que le mien. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire c'est un comportement de défaut moral qui est rattaché à l'idolâtrie. Mais Maïmonide va plus loin en disant que, en citant d'ailleurs un autre enseignement du Talmud, si un prophète se met en colère, la révélation le quitte. Il dit que la colère est un de ses défauts qui empêche même la possibilité de la révélation et que le fait que Moïse se soit mis en colère en frappant le rocher au lieu de lui parler, et regardez à quel point, encore une fois, il faut être frappé par le fait, une petite différence de cet ordre. Dans les deux cas, pour quelqu'un qui ne comprend pas de quoi il s'agit, c'est de la magie. Et parler au rocher qui donne de l'eau et frapper au rocher qui donne de l'eau, dans les deux cas, c'est de la magie. Okay ? Alors on fait comme si il y a un problème là, alors que le vrai problème, c'est qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je dis là. Et alors que c'est se mettant en colère, il a frappé au lieu de parler, et sa faute, c'est la colère. En fait, le professeur Baruch intervient sur l'enseignement de Maïmonide en disant, et là, c'est moi qui dis, il parle en tant que médecin, il parle en tant que médecin de l'âme, si j'ose dire. Vous connaissez le professeur Baruch, donc moins de réputation. Il dit, mais il y a des saintes colères. Qu'est-ce que ça veut dire que dans tous les cas, la colère est une faute? Il y a des saintes colères. Est-ce que c'est clair? Alors, il faut chercher l'explication ailleurs. Là, c'est la scène où Moïse dévoile qu'il est trop haut pour ce peuple. Dans tous les autres cas de révolte du peuple, Moïse a intercédé pour le peuple. Alors, il en est le chef. Mais là, c'est la première fois qu'il n'est plus capable de prier pour le peuple. Alors Dieu en prend un qui lui dit tout de suite, tu passeras le relais à Josué. Est-ce que c'est plus clair? C'est-à-dire, effectivement, Moïse, c'est un signe qui nous fait comprendre que Moïse n'est plus capable d'être au niveau où le peuple se situe. Il est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait croire, il est trop haut pour ce peuple. Alors il y a un reflet de Moïse qui va prendre le peuple en charge, c'est Josué. Et le Midrash compare Josué à la lune et Moïse au soleil. Josué est par rapport à Moïse comme la lune est par rapport au soleil. La lune reçoit une lumière qu'elle atténue, qu'elle rend obscure pour pouvoir être supportable pendant la nuit. Voilà, c'est cette image-là qui peut nous faire comprendre de quoi il s'agit. Alors le signe, pas tellement que Moïse se soit mis en colère. Vous savez, moi je me suis toujours demandé comment Moïse pouvait ne pas se mettre en colère tous les jours de sa vie. Et je crois que c'est un aspect de l'histoire de Moïse qu'on n'a encore jamais raconté. Il est le chef d'une communauté juive de 600 000 chefs de famille, turbulente comme c'est pas possible. Et nous savons que c'est l'homme le plus patient, le plus humble, le plus. Il est merachem, il est miséricordieux pour son peuple, sans arrêt et sans interruption. Mais à partir du moment où il n'est plus à la hauteur basse où le peuple se situe, alors Dieu juge qu'il n'est plus capable d'être le berger de ce peuple, non pas à cause de ses capacités de berger, mais à cause de l'incapacité du peuple. Et donc il faut un Moïse petit format, c'est-à-dire un Josué. Je ne sais pas si c'est clair, c'est Josué. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. Sinon, ce serait extrêmement mystérieux. Nous aurions là ici un Dieu difficile à comprendre, une colère pareille de la part de Dieu, parce que Moïse a frappé au lieu de parler, et alors tout Moïse aurait été disqualifié. Qui peut comprendre ces choses-là à la lettre? Il faut les comprendre à la lettre, mais une fois ayant compris le contenu du sens. Tant plus que, dans tous les cas, Moïse ayant frappé le rocher, l'eau est quand même sortie. Alors, quelle était la différence de faire sortir l'eau en parlant que... Et alors, l'enseignement que je vous donne me paraît extrêmement important. Là, c'est l'exemple où Moïse ne supporte plus le peuple. Alors Dieu ne le supporte plus comme chef du peuple. C'est un peuple qui est très protégé par la complaisance divine. Vous savez, un jour, j'ai inventé un midrash. Comme je le dis souvent, c'est interdit d'inventer des midrashim. Enfin, pour les besoins de l'exposition. C'est qu'un jour, Dieu a décidé de sauver l'humanité. Et puis, il a eu une idée de génie. Il s'est dit... Par qui je vais commencer? Alors il a dit, je vais prendre le peuple le plus difficile. Si ça marche avec eux, je fais passer les autres. Et c'est ce peuple que Dieu a confié à Moïse. Et regardez bien l'histoire du monde. Tout se passe comme si c'est vrai, ce midrash-là. Je ne vous parle pas des problèmes interconsistoriaux. Et à vue, je ne sais pas comment dire, à vue très calme et très froide, c'est inouï ce qui se passe dans ce peuple. C'est inouï à imaginer Moïse devant un peuple pareil. Est-ce qu'il n'aurait pas le droit de frapper le rocher? Et c'est pour ça qu'il ne serait pas rendu. Oui, il faut bien faire. Vous avez compris pourquoi j'ai réagi à votre question. Il faut bien faire attention que ce dont nous parle la Bible, ce n'est pas du tout une histoire d'anecdote à l'échelle individuelle. C'est beaucoup plus important que ça. Elle nous parle de la geste des grands hommes qui ont fait l'histoire d'un grand peuple, Israël. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut le comprendre, à la lettre. Et alors, vous avez raison de dire que c'est écrit, il l'a frappé. Mais vous croyez que quelqu'un qu'on a frappé, qu'on a mis dans le sable, va rester vivant? Et alors, le Midrash va intervenir. Il l'a frappé en prononçant le Shem HaMforash, en prononçant le nom de Dieu qu'on prononçait que dans le temple. Il l'a frappé par le nom de Dieu. L'autre, il en est mort. En disant, nom de Dieu. Bien, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Faisait, pardon. Eh bien, ça, c'est l'autre... Les deux. Oui, là, il va falloir. Là, vous avez eu l'imprudence de m'imposer 5 minutes de plus. Mais je vous dis, je suis très impressionné parce que votre question, elle était juste la 4e dans mon plan et la vôtre, la 5e. Tout simplement. Ça m'impressionne. Mais écoutez, voilà quel est le problème. D'ailleurs, je vais prendre la référence que vous avez là, je vous l'indiquais. Et vous avez la référence ici. Dans Shemot Lamed Dalet. Hein? Vous allez la prendre là, en haut de cette page-là. Alors voilà, on n'a pas trop de temps de voir les choses en détail. Mais je ne sais pas si vous m'avez posé la question parce que vous avez lu le texte dans la référence ou si c'est prophétique. Ça y est, vous y êtes ? C'est Shemot Lamed Dalet. Vrai, il n'y a pas grand-chose à lire. Mais on va le lire assez attentivement et ensuite vous serez libre. Alors voilà de quoi il s'agit. J'attends que vous soyez prêts. La révélation des premières tables de la loi a été donnée le 6 Sivan. 40 jours après, Moïse avait donné un rendez-vous 40 jours après. Il est monté sur la montagne, recevoir la Torah et les tables de la loi. Il devait redescendre 40 jours après, qui est le 17 Tammuz. Et le 17 Tammuz a eu lieu l'épisode de la faute du veau d'or. Alors, lorsque Moïse descend de la montagne, pendant ce temps, Josué monte à sa rencontre. Et puis, entre-temps, au bas de la montagne, il a eu l'épisode de la faute du veau d'or. Alors là, il me faudra un peu plus de temps, mais vous me faites confiance sur les références que je vous donne, que vous étudierez par vous-même. À la fin du chapitre 12 de l'Exode, on apprend qu'en même temps que les tribus d'Israël étaient sorties d'Égypte, tout un ensemble de populations qui étaient asservies par l'Égypte en même temps qu'Israël, et que le texte appelle le Erev Rav, un grand mélange de populations qui s'adjoignaient à Israël à la sortie d'Égypte. La différence entre les tribus d'Israël, qui étaient les tribus des Hébreux, descendants de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, et tout ce peuple, le Erev Rav, le grand mélange, qui étaient des païens asservis par l'Égypte, je vous donnerai un exemple. Chaque fois que la situation d'Israël est en esclavage dans un empire, il y a aussi d'autres ethnies. Je crois que l'exemple le plus clair qui me vient à l'esprit, c'est l'Empire soviétique. En même temps que les Juifs étaient opprimés dans l'Empire soviétique, énormément d'ethnies et de nationalités, si vous voulez. Eh bien, Moïse a pris l'initiative de les intégrer à Israël, sur Erevrav. Là, il y a un sujet pour lui-même. Je prendrai juste l'espace de quelques phrases. Ils ont expérimenté la foi d'Israël que l'exil peut prendre fin. Là, il faudrait que j'ouvre toute une parenthèse pour confronter la notion liturgique de la foi d'Israël avec la notion théologique de la foi religieuse. La foi d'Israël, c'est pas que un Dieu existe. La foi d'Israël, c'est que les promesses que Dieu a faites, que l'exil prendrait fin, s'accompliront. Relisez toutes les prophéties aux patriarches et toutes les prophéties à Moïse. De quoi parle Dieu lorsqu'il parle aux patriarches, lorsqu'il parle à Moïse ? Il ne parle pas de théologie en expliquant son existence. Il promet que sa promesse faite depuis l'origine de notre histoire, que l'exil prendra fin, se réalisera un jour. Et Quel mérite il y a à croire lorsque Dieu promet? C'est un mérite considérable. Parce que bien que ce soit Dieu qui promet, ça ne se réalise pas. Alors y croire quand même, c'est le summum de la foi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et ça, c'est le grand mérite de nos ancêtres qui ont cru pendant des siècles et des millénaires que l'exil prendrait fin, alors qu'ils avaient une expérience. L'expérience de la réalité, c'est tout le contraire. Et pendant 2000 ans, nous avons dit tous les jours, dans la prière, ma Ashrenu, ma Tov Helkenu, ma Naim Goralenu, ma Yafameod Yerushatenu, et on était les plus malheureux de la terre. On disait que nous sommes heureux, comme nous sommes beaux, comme nous sommes gentils, comme... et alors que nous étions les plus malheureux de toute la terre. Pendant 2000 ans, une fois chevillé au corps. L'année prochaine, pendant 2000 ans, comptez. Ça, c'est le grand mérite d'Israël, de croire en dépit de tout. Et finalement, ça arrive. Ça veut dire qu'il y a un registre des réalisations qui n'est pas le registre des promesses. Et quoi qu'il en soit, la foi d'Israël, c'est qu'on peut sortir d'exil. Comment comprendre? Il n'y a pas d'autre foi d'Israël. Le problème, est-ce que Dieu existe ou pas, c'est un problème de théologien. Ce n'est pas du tout un problème de rabbin. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. D'ailleurs, ils sont inaptes à ces problèmes-là. Et, je veux dire... Abraham, ce n'est pas un philosophe raisonnant sur la démonstration de l'existence de Dieu. Abraham est un Hébreu en exil qui entend une révélation, l'exil prendra fin. Et comment se fait-il que d'une telle révélation a procédé une histoire aussi considérable pour la foi dans l'humanité? L'humanité entière se réclame de la foi d'Abraham. Encore une fois, ce sera pour l'assonance, la foi d'Abraham, ce n'est pas que Dieu existe, c'est qui est ce Dieu qui existe et qui, lorsqu'il promet, ne réalise pas. Et on y croit quand même. Non, c'est important de découvrir cela. Et c'est ça en quoi croit Abraham, le premier des croyants. Et alors, j'ai une fois compris cela en étudiant l'importance que l'événement de Pâques, qui commémore la sortie d'Égypte, a eu pour l'humanité entière, en particulier pour la chrétienté. Je voudrais le formuler très rapidement d'une certaine manière. Il y en a d'autres possibles, vous me direz si c'est suffisamment clair. Je crois que l'humanité entière, quelle que soit sa tradition, sa culture, a perçu le malaise d'être, le mal d'être de la créature. La créature se connaît dans un mal-être qui est d'être en exil du Créateur, tout simplement. Et chaque tradition exprime ça à sa manière. C'est la recherche du salut. Le salut de quoi? Alors chaque tradition va vous donner une définition de quel salut il y a espérance. Mais les formulations dépendent du tempérament de chaque culture. Par exemple, pour la chrétienté, il faut être sauvé de la mort, c'est-à-dire du péché, c'est-à-dire de la loi. Parce que c'est la loi qui induit le péché, qui induit la mort, et c'est ça dont il faut être sauvé. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond comme expérience existentielle? Il faut être sauvé de la condition humaine, tout simplement. Et la condition humaine, c'est quoi? C'est d'être créature, c'est-à-dire loin du Créateur. Alors ce mal-être est perçu par toutes les traditions culturelles du monde, chacune à sa manière. Et voilà que le monde rencontre dans son histoire un peuple dont l'histoire consiste à donner le témoignage qu'on peut mettre fin à l'exil. Alors on y croit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est-à-dire, le chrétien ne sait pas que, quelle que soit la manière dont il célèbre sa Pâque, eh bien, il se rattache à cette expérience hébraïque qu'on peut mettre fin à l'exil. Mais l'exil de quoi? De la créature loin du Créateur. Mais en tant que lit la Bible avec cette lecture, tout devient simple. C'est de ça que Dieu parle au patriarche, c'est de ça que Dieu parle à Moïse. Et alors, vous savez comment on commence la commémoration de la Pâque? Par une première proclamation, quiconque a faim vienne et mange, quiconque est dans le besoin vienne faire Pâque avec nous. C'est clair. Et alors, c'est ce que le El Rav a entendu en Égypte. Ils ont voulu être sauvés du salut d'Israël. Donc, Moïse a diagnostiqué qu'ils avaient la foi d'Israël. Et donc, il les a intégrés à Israël. Pourquoi ce conflit avec cette génération qui a induit la faute du veau d'or? Et vous voyez quel est le problème? Et Moïse va menacer de détruire cette génération, et les Hébreux, et leurs convertis. Leurs convertis chez l'Oka Halacha, parce que... Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Moïse, oui, Dieu. Et... je vais vous dire pourquoi après j'hésite un peu, parce que je vous sens tellement fatigué que je me demande si j'ai le droit de vous prendre du temps, mais je continue. Dieu veut détruire ces générations, et puis Moïse va intervenir. Il dit il faut les sauver pour sauver ton peuple. Et il faut voir ça très en détail. Quand Moïse dit, je vais détruire, quand Dieu dit à Moïse, je vais détruire ton peuple, il s'agit du Hérav. Et quand Moïse dit, sauve ton peuple, il s'agit d'Israël. Alors vous allez voir que ça va s'éclairer de manière extrêmement simple. Et en fin de compte, Dieu acquiesce et va suspendre la sanction et va accepter d'intégrer le Hérav en Israël. Qu'est-ce qui leur manquait au Hérav? Encore une fois, ils avaient la foi d'Israël. Ce qui leur manquait, c'était la culture des patriarches des six générations d'Abraham à Moïse. Ce que nous appelons en hébreu le Derech Eretz, des Avot. La culture morale préalable à la réception de la loi de sainteté. Ils ont reçu la loi, mais dans une mentalité païenne. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et chaque fois qu'on s'approche de la loi de sainteté avec une mentalité païenne, sans ce Derech Eretz des Avot, on transforme la Torah en une religion païenne. Et ça se produit en milieu juif aussi. Eh oui, c'est ce que je suis en train de dire. Allez, laissez-moi parler. S'il reste une question, on la poserai après. Je sais bien que je vous parle de choses difficiles à entendre. Et comprenez bien une chose, ce n'est pas à n'importe qui que n'importe comment Dieu a donné la Torah. Dieu a donné la Torah aux descendants des patriarches qui ont reçu une éducation hébraïque des Avot, Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Kehat, Amram, Moshe, six générations pour arriver à Moïse. Alors ce Elevlav embraye sur la foi d'Israël, il accepte la loi d'Israël sans la morale d'Israël. Et alors, avec leur Torah, ils ont fait une religion païenne et ils ont fait une idole pour remplacer Moïse, un médiateur, tout simplement. Mais ce que j'ai ajouté, et je vois que ça correspond à vos inquiétudes, si en milieu juif aussi, on pratique la Torah avec une mentalité païenne, on la paganise, cette Torah. Alors méfiez-vous de l'irruption de la mentalité païenne dans les milieux piétistes juifs. Ça sévit en France, on appelle ça des hiloulot. Il faudrait appeler ça des hiloulot. Si vous savez ce que c'est qu'une hiloula dans la tradition, et la kermesse qu'on en fait, c'est paganisé. Bon. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais il n'y a pas que cet exemple-là. Il y a une espèce de comportement païen de pratique de la Torah. Alors, si c'est ce que vous vouliez m'entendre dire, je l'ai dit. Bon. En tout cas, ça se produit dans des synagogues dont vous n'avez aucune idée. Ne croyez pas que ça se passe que dans certains ghettos, ça se passe dans certains quartiers. Bon, en tout cas, pour revenir... au sujet, vous voyez, lorsque Moïse prend acte que on a fait une idole, alors il prend les tables de la loi et il les brise. Et ça s'est passé le 17 Tammuz. Suivez bien. Okay. Et on ne se rend pas suffisamment compte de ce qui se passe. Référez-vous à ce que j'ai dit tout au début. On lit les choses sans les lire. Okay. Ce que la Torah nous enseigne, le récit de la Torah nous enseigne, c'est qu'après avoir créé le monde et l'avoir transformé en le monde de nature, Dieu a donné un objet qui vient de ses mains directement, l'étape de la loi. Et Moïse prend l'étape de la loi et les brise. Il n'y a pas un mot en français pour dire plus que blasphème. Et on ne se rend pas compte de ce qui se passe et on lit. Hein, plus que sacrilège. Okay. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, alors là vous allez prendre la référence du chapitre 34. Verset 1, lorsque Dieu redonne les deuxièmes tables à Moïse, vous allez voir ce qui se passe. Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu dit à Moïse, suivez sur le texte. Psol lecha shenuchot avanim karishonim, fabrique-toi deux tables comme les premières, vechatafti ala luchot, et j'écrirai sur les tables, et tadvarim asher hayu, les paroles qu'il y avait. À la luchot arishonim, sur les premières tables, Asher Shibarta, que tu as brisé. Qu'est-ce que dit la Gemara là-dessus? Vous l'avez juste en bas, Menachot, Daf, Tzadetet, Bet, Dirtiv, Asher Shibarta. Par le fait qu'il est écrit que tu as brisé, Amarlo Akadosh Baruch Hu, ça signifie que Dieu a dit à Moïse, Yashar Kohachash Shibarta, je te félicite de les avoir brisés. Alors ça, l'étonnement grandit. Non seulement on apprend que Moïse a brisé les tables de la loi, mais on voit que Dieu le félicite. Lorsqu'il lui dit, les tables, les premières tables, que tu as bien fait de briser. Le raisonnement est très simple. Cette expression, du point de vue de l'information, est inutile. Les tables que tu as brisées, on sait qu'il les a brisées. Alors, comme on sait qu'il n'y a rien d'inutile dans le texte, qu'est-ce que ça veut dire, les tables que tu as brisées? Ça veut dire les tables que tu as bien fait de briser. Je te les félicite de les avoir brisées. Mystère. Mystère à l'intérieur du mystère. Alors, en fait, que s'est-il passé? Moïse descend avec les tables et puis il s'aperçoit de l'idolâtrie au pied du veau d'or. S'il laisse les tables comme témoignage de la loi, le peuple est condamné. Il faut détruire les tables de la loi pour sauver le peuple. Est-ce que c'est clair? Et alors, lorsque Dieu lui redonne les deuxièmes tables de la loi, et après je réponds à votre question, mais c'est déjà un peu avancé, eh bien Dieu lui dit, c'est bien ce que je souhaitais ce que tu fasses. Heureusement que tu l'as fait. Alors pourquoi Dieu ne l'a pas fait lui-même? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse, brise les tables vite, sinon le peuple est perdu? Et vous voyez qu'il y a ici un thème très important. Pour sauver le peuple, il faut mettre la loi entre parenthèses. Mais qu'est-ce que dit la Bible? On la redonne, la loi. C'est pas qu'on l'évacue. On la redonne dans les deuxièmes tables. J'ai fait allusion à ce qui s'est passé au temps du polynisme. Pour sauver les hommes qui sont fauteurs, il faut mettre la loi entre parenthèses. Et on met la loi entre parenthèses. Mais la Bible enseigne autrement. Pour sauver les hommes, il faut briser les premières tables et donner les deuxièmes. Est-ce que c'est clair la différence? Bien. Et alors, la réponse, au fond, je ne l'ai pas trouvée. Je n'ai pas de référence à vous donner. C'est un raisonnement que je vous propose. Je vous demande d'ailleurs d'être attentif. Quand je vous dis ça, je n'ai pas de source. Je n'ai pas de source. N'imputez pas ça aux sources. Vous direz, il a dit. Mais ça n'a que la valeur que ça a avant que vous trouviez une source. Si vous trouvez une référence, envoyez-moi un télégramme. Et alors, le raisonnement, au fond, est très simple. Dieu, c'est la vérité absolue. La loi, c'est la vérité absolue. Dieu ne peut pas détruire la loi. Dieu ne peut pas mettre en question la loi. La vérité ne peut pas mettre en question la vérité. Mais il souhaite que Moïse prenne l'initiative de mettre la loi entre parenthèses pour sauver le peuple. Est-ce que c'est bien clair? Là, je sais bien à ça. Et alors, ce qui fait que pour sauver le peuple d'Israël et les promesses faites aux patriarches, il fallait sauver le Elevlav. Parce que si le Elevlav est détruit, le peuple est détruit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'il retourne en Égypte pour reprendre le Rechouche, puisque celui-là n'a pas réussi. Et donc, pour sauver le peuple, tout simplement, il faut pardonner, enfin, suspendre la sanction. Pour le Elevlav, quelle est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Les premières tables, c'est voici la loi. Et s'il y a faute, on est hors la loi. Les deuxièmes tables, c'est très différent. Voici la loi. Et s'il y a faute et qu'il y a repentir, on est pardonné. Mais voici la loi. Voyez la grande différence. Le judaïsme reste le judaïsme. Bien que le Elevlav soit entré en Israël. Seulement avec ce danger. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas que vous ayez trop de cauchemars. Si on s'approche de la Torah sans la culture hébraïque, on risque de s'emparer de la Torah avec une culture païenne. Et alors, ça paganise la Torah. Et c'est ce qui est arrivé avec la faute du veau d'or. Ils ont projeté leurs habitudes religieuses à ce qui s'est passé lorsqu'ils ont cru que Moïse n'était plus là. L'idole qu'ils ont faite, ce n'était pas pour remplacer Dieu, c'était pour remplacer Moïse. Et je vais vous montrer ça dans le calendrier. Les premières tables ont été données le 6 Sivan. 17 Tammuz, 40 jours après, les tables ont été brisées. Pendant 40 jours après, Moïse a prié. On arrive au 1er Elul. Pendant 40 jours encore, il a reçu les deuxièmes tables. On arrive au 10 Tishri. Le 10 Tishri de cette année, c'est le premier événement historique du pardon où les deuxièmes tables ont été rendues. Et c'est pourquoi... Après le distichri, nous avons Simchat Torah. Après l'expérience que s'il y a faute et qu'il y a eu repentir, il y a pardon, on peut recevoir la Torah avec joie, parce que sinon, on la reçoit avec terrifié, comme on disait, avec terreur, parce que ça voudrait dire qu'à la première faute, on est perdu. Vous avez compris? Donc, est-ce que c'était bien votre question? Alors voilà donc la réponse. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de cette soirée. J'ai passé une excellente soirée, j'espère vous. Comment ça va? Comment ça va? Oui, ça s'est bien passé. Tout arrive. Oui. C'est un peu secret. Oui. Oh, j'ai pas le temps. Malheureusement, je suis. Hein? Si tu tu peux m'accompagner. Attends, quelle heure il est? Quelle heure il est? Au moins 11h, non? Attends, je vais. Attends, les mots. Les affaires. Comment? Non, il n'y a rien de spécial.
Rien de spécial. Vous allez le voir, vous allez entendre
le courage? Oui, bien sûr.
Je te ramène.
Il y a quelqu'un qui m'a ramené.
Il y a quelqu'un qui m'a ramené.
Eh bien, ça s'est très bien passé.
Je te remercie, ça s'est très bien passé.
Et il faudra vérifier les micros.
Oui, mais c'est un problème.
Je sais pas ce qui se passe.
Non, non, mais on entendait très très bien. Moi, je me suis mis au bout, il n'y avait pas de problème. Mais
d'accord.
Si tu veux, là, le problème, c'est plutôt un problème d'aération.
Ah oui. Bonsoir, comment allez-vous?
Ça va,
grâce à Dieu. Bonsoir. Merci, bonsoir. Oui, c'est l'avant-dernier. Très bien.
Une petite illustration de ce que vous avez dit tout à l'heure,
oui.
Que les nations se rendent bien compte de la spécificité d'Israël.